Selma Paiva écrit un livre qui s'appelle « Internet est une table pour deux ». Et sa grande idée, c'est que nous devons revenir à une approche individuelle et personnalisée de la vente pour pouvoir réussir sur le web. Et pourtant, on a aujourd'hui des outils, que ce soit les outils d'emailing, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit même YouTube, qui nous permettent de communiquer toujours plus efficacement avec une grande masse de personnes. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe ici ? D'un côté, on doit revenir à la communication personnelle individuelle, et de l'autre, ça n'a jamais été aussi facile de toucher des gens dans tous les pays du monde. C'est la question que je pose à Selma lors de cet épisode. Est-ce que ce côté de « il faut faire du marketing humain et personnel », c'est pas quelque chose qui est un peu dépassé et c'est pas un peu quelque chose de romantique qu'on continue à répéter, mais c'est pas vraiment comme ça que le monde fonctionne. Donc je vais la challenger un petit peu là-dessus. Et au cours de la conversation qu'on va avoir, vous allez découvrir une approche différente de la vente et du marketing. Vous allez découvrir des techniques pour développer votre empathie et pouvoir mieux vendre et pouvoir mieux communiquer avec votre client. Et des conseils pour écrire plus vite et mieux. Avant de rentrer dans le gros de l'épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Récemment, j'ai lancé une nouvelle formation gratuite qui s'appelle « Construire une carrière de freelance stable et rentable » qui s'adresse donc à vous si vous êtes freelance, comme son nom l'indique. L'idée ici, c'est d'appliquer la philosophie Marketing Mania à votre carrière de freelance. Et la philosophie Marketing Mania, c'est quoi ? C'est penser de manière systématique. C'est décomposer les différents ingrédients qui vont faire votre carrière. Et je pense ici notamment à votre système de vente, la manière dont vous allez convertir un prospect intéressé en un client signé. Je pense à votre système de networking parce que oui, on peut mettre en place des systèmes et des process autour du networking. C'est ce que moi j'ai fait pour me construire un réseau puissant et influent qui me donne toutes les infos dont j'ai besoin, qui m'aide à monter des projets complexes. Alors que je suis un grand introverti au final. Si vous me connaissez dans la vraie, vous savez que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement spontané, je ne fais pas beaucoup de rencontres, d'événements, de conférences. J'y vais uniquement de manière stratégique et surtout, j'ai des systèmes qui sont en place pour construire ce réseau de manière très spécifique. L'idée ici, c'est que si vous êtes freelance, vous avez besoin d'un réseau. Le réseau, c'est votre filet de sécurité. Vous avez besoin d'un système de vente. Vous ne pouvez pas improviser à chaque conversation de vente. Ça, c'est la philosophie Marketing Mania. Et j'ai créé une formation qui condense l'ensemble de ces systèmes et de ces process dont vous avez besoin pour avoir une carrière qui soit encore une fois stable, pour avoir des clients qui arrivent vers vous régulièrement, pour avoir des conversations de vente qui se déroulent d'une manière prévisible où vous avez contrôler tous les paramètres, où vous êtes capable de répondre à toutes les questions et où vous avez un gros taux de conversion sur ces contrats-là. C'est une formation en vidéo qui dure 7 jours. C'est totalement gratuit. Pour la recevoir, il suffit de vous rendre à l'adresse marketingmania.fr/freelance. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Selma Paiva. Salut Selma et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Stan et merci pour l'invitation.
Donc Selma, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Internet est une table pour deux » et dans le bouquin, la grande idée, c'est vraiment de revenir à ce côté humain, à l'humain, à la conversation directe avec les gens dans le commerce. Mmh. Et je voulais voir avec toi ce que tu pensais par rapport à tout ce qui était la technologie. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu communiques via l'email, via YouTube, tu communiques plus directement avec une personne directement. Et comment est-ce que tu fais pour réconcilier un petit peu cette idée qui peut sembler un peu idéaliste, tu vois, qu'il faut vraiment communiquer avec les gens, etc. Effectivement, mais concrètement, les outils que tu as aujourd'hui, c'est plutôt des outils qui te permettent de communiquer avec pas mal de gens et te dire que tu vas avoir 1% des gens qui vont acheter. Quoi.
Mais justement, je crois que La technologie, pour notre génération, c'est quelque chose de formidable. Et c'est aussi grâce à la technologie qu'on est devenu ou qu'on peut se permettre de devenir des idéalistes. D'accord ? Parce que, en tout cas, moi, je suis la génération qui a grandi sans les réseaux sociaux. Et quand tu vois les réseaux sociaux, la technologie aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous rend, dans la vie perso et dans la vie pro, finalement, beaucoup plus ouvert, tu vois, beaucoup plus flexible. Et c'est ça qui fait qu'on ne supporte plus d'être traité comme des numéros, tu vois, ou de faire partie d'un grand tout. C'est aussi la technologie, tu vois, paradoxalement, qui fait qu'aujourd'hui, la communication de masse, ça nous... Tu vois, en tant que client, on a plus envie de ça. On est devenu... Ça a relevé la barre, en fait. Tu vois, on est devenu plus exigeant. Et c'est pour ça qu'on commence de... Enfin, on parle de plus en plus... de remettre l'humain dans le marketing, de remettre l'humain dans la vente, etc. Mais comme tu dis, c'est un idéal. Et après, le challenge, c'est de savoir, en fait, concrètement, comment on fait pour y arriver. Et si j'ai écrit « Internet est une table pour deux », c'est parce que, avec tous ces écrans qui, d'un côté, nous rapprochent, de l'autre côté, c'est quand même facile d'oublier que c'est des vrais gens, en fait, qui sont de l'autre côté de l'écran. Et que chacun, il est tout seul, en fait, devant son écran. Parce que quand tu fais un podcast, tu dis « Voilà, je vais faire 5000 vues, je vais faire 10000 vues », mais ce n'est pas un troupeau qu'on a en face. Là, chacun de nos auditeurs, il est tout seul en train d'écouter ton podcast ou de voir ta vidéo.
Et par exemple, comment est-ce que ce podcast va pouvoir créer une connexion directe avec la personne? Notamment, c'est intéressant comme exemple parce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, donc dans ma consommation de podcasts et à la fois dans ma pratique de podcasteur, parce que ça fait très longtemps que je fais des podcasts. J'ai fait des podcasts à l'époque où absolument personne n'en faisait pour des raisons de business, à l'époque où je bossais sur mon premier site. Et j'ai découvert que le podcast est une manière extrêmement efficace de créer cette relation avec les gens, notamment parce que tu vas pouvoir passer des heures et des heures dans leurs oreilles, tu vois. Mais comment est-ce que tu justifies, tu vois, par exemple, que ce podcast, qui au final n'est pas si différent d'une émission de radio? Je pourrais être DJ Stan Leloup sur Energy à 3h40 du matin et parler à des gens. Et en quoi est-ce que, par exemple, ce podcast mettrait plus l'humain ou créer une connexion, tu vois? Pourquoi est-ce que le podcast, c'est aussi fort pour créer cette connexion? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça en dehors des gens qui sont des podcasteurs, tu vois? C'est quoi l'élément fondamental ici?
Alors, en fait, le podcast, donc là, c'est ton format. Et justement, toi, tu fais ça très bien. Après, il y a d'autres personnes, ça peut être plus la vidéo, par exemple, ou plus l'écrit. Mais si ton podcast aussi, il est de qualité et il fonctionne bien, c'est parce que déjà, toi, tu es vraiment toi dedans. Et quand ton... Ce que ça apporte, le podcast, la différence avec un contenu qui est écrit comme un mail, c'est qu'on entend la voix de la personne. D'accord ? Après, ça aussi, des contraintes. Mais déjà, ça, ce que je dis toujours quand on crée un contenu, c'est déjà, si tu crées ton contenu en ayant en tête, quitte à avoir leur nom, tu vois, sur un post-it de l'écran de tes 5-10 auditeurs préférés, ceux pour qui le podcast est le mieux fait. Et on ne parle pas, là, tu vois, d'avatar ou de persona idéal, parce qu'on n'est pas dans la version podcast du Prince Charmant, mais vraiment, ces vrais gens-là, c'est qui d'avoir leur nom. Et quand tu fais l'émission pour eux, en vraiment même toi, imaginant que tu parles à ces personnes-là, du coup, en imaginant qu'ils sont de l'autre côté de la table, en intégrant les questions, les objections que tu sais qu'ils peuvent avoir, quand ils écoutent du coup le podcast, ils ont vraiment l'impression qu'Internet est une table pour deux et que tu es de l'autre côté de la table avec eux.
Une tendance qui est assez de plus en plus populaire en ce moment et qui, moi, m'a toujours mis un peu mal à l'aise, c'est la tendance à tutoyer son audience ou faire « bienvenue dans le podcast, aujourd'hui, je vais te parler de ça et de ci ». Et pour le coup, c'est assez frappant la première fois que tu l'entends parce que tu as vraiment l'atmosphère qui est créée, c'est vraiment on te parle directement et c'est une personne qui te parle directement. Versus le vouvoiement qui... Alors, on parle à plusieurs personnes d'un coup. C'est quoi ton avis là-dessus? J'ai l'impression que tu n'utilises pas trop le tutoiement sur tes propres contenus.
Alors, en fait, moi, j'utilise le tutoiement, mais je suis vraiment passée du vous au tu. Pour moi, ça a été en plus assez difficile parce que j'ai eu une éducation où vous voyez quasiment tout le monde. Donc, pour moi, tutoyer des gens, ça a été assez... ça a été tout un process. J'ai commencé à tutoyer du jour où je m'en suis rendu compte qu'en fait, il y avait un décalage entre écran, pas écran. C'est-à-dire que quand je rencontre des abonnés, quand je parle avec des clients, quand je travaille avec eux, on se tutoie naturellement. Mais finalement, quand il y avait un écran, je remettais cette barrière. Donc ça a été mon choix de passer au tutoiement. Mais après, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et ça, c'est très en fait, lié à la langue française parce que on peut utiliser, à la langue française en France, parce qu'encore au Canada, c'est différent, mais on peut utiliser le « vous » pour dire « vous » à plusieurs personnes ou pour dire « vous » à une personne. Or, comme tu vois, je disais tout à l'heure, Internet, c'est une table pour deux. Donc, de toute façon, ton auditeur, il est seul. Ils sont rarement à plusieurs, tu vois, à se regrouper pour écouter le podcast ensemble. Donc, quand on est... pas forcément mal à l'aise avec le tutoiement, mais tout simplement plus à l'aise avec le vouvoiement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans la vraie vie. On peut tout à fait vouvoyer son lecteur, son auditeur, mais le vouvoyer au singulier. Et là, tu commences à créer vraiment une connexion qui est différente, parce que c'est comme quand on te parle à toi ou on parle à plusieurs personnes. D'accord ? Si on te parle à toi en te vouvoyant, tu te sens plus impliqué du moment qu'on te vouvoie toi au singulier, je dirais, pas au pluriel.
Du coup, la nuance est assez subtile, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est aussi un truc auquel je fais assez attention. C'est-à-dire que, notamment dans les emails, je pense que les emails, c'est l'endroit où ça s'exprime le plus. L'email, tu l'envoies directement à une personne. Donc, moi, je vais vouvoyer parce que j'ai un problème avec le tutoiement et je trouve que c'est un... Moi, ça me choque toujours, tu vois, à l'écrit, quand quelqu'un me tutoie, je me dis, tiens, c'est bizarre, tu vois. Et j'ai un peu l'impression, au contraire, qu'on essaie de m'avoir en me disant, bah, je sais bien que ce mail-là, il ne m'a pas été envoyé directement, tu vois. Et au contraire, dès que les gens vont répondre à un email, même si dans l'email, je les vouvoie, ils vont dire, ah, Stan, c'est Racine que les gens me tutoient quand ils me contactent directement. Et moi, je ne rêverai pas de vouvoyer un client quand je le contacte, tu vois. Directement. Mais dès que c'est un email, je vouvoie parce que, je ne sais pas, il y a une version de politesse qui est que. Je vais quand même reconnaître que ce que j'envoie, c'est une communication à plusieurs personnes. Et par exemple, sur un format comme YouTube, étrangement, dans le ressenti que j'en ai, sur format YouTube, je trouve que tu es vraiment conscient que tu fais partie d'une audience et qu'il y a des gens autour. Notamment par rapport à la prévalence sur YouTube des chiffres, tu as le compteur de vues, tu as le compteur de likes, tu as les commentaires qui sont en dessous et tu as très conscience de faire partie d'un groupe de personnes qui regardent ce YouTuber.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Stan, parce qu'en plus, et c'est, d'ailleurs, comme on disait, c'est vraiment aussi la langue française qui nous place, en fait, dans cette situation, et ça revient souvent dans la question qu'on me pose, est-ce que je devrais tutoyer, est-ce que je devrais vouvoyer? Et moi, je dis vraiment, que ce soit toi, Stan, ou quelqu'un qui nous écoute, si vous êtes plus à l'aise avec le vouvoiement, vouvoyez, mais je dirais même quand un mail, bien sûr qu'on sait que tu ne nous envoies pas de mail juste à moi, Selma, ou je ne t'écris pas juste à toi, Stan. Mais dans la réalité, c'est quand même que chacun est seul devant son écran. Alors, si tu fais un webinaire et qu'il y a plusieurs personnes qui participent ou tu poses une question sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui participent, dire « vous » au pluriel quand c'est vraiment « vous » au pluriel. Mais cette intention qui peut être très subtile, comme tu le disais, dans le fait d'écrire, de parler, en gardant bien en tête qu'on a une personne en face, ou comme tu t'adresserais, si tu veux, si vraiment Internet est une table pour deux, on est autour d'une table, tu as cinq personnes, tu as cinq clients, quand tu t'adresses à une personne, c'est elle qui va se sentir plus particulièrement concernée. Donc, tu peux tout à fait aussi jouer sur cette subtilité-là. Donc, alterner le « vous » du groupe avec le « vous » au singulier. Mais je pense que l'essentiel, c'est de faire ce qui est le plus facile et te rappeler, voilà, pour soi. Tu vois, de ne pas aller vers le tutoiement si on n'est pas à l'aise, pas aller vers le vouvoiement si on n'est pas à l'aise, mais vraiment choisir ce qui nous convient le mieux et aussi au niveau de l'image, parfois qu'on veut donner professionnellement. Et à partir de là, bah, mettre en place une stratégie de communication ou de contenu. Je ne sais pas si c'est de ça dont on va parler ensuite aujourd'hui, mais tu vois, sans trop se prendre la tête sur ce détail-là, dans la mesure où on garde bien comme objectif le fait qu'on est là pour captiver, pour intéresser, pour accompagner une personne à la fois.
Il me semble, et tu me diras ce que tu en penses, mais que un des moyens les plus efficaces aujourd'hui de pouvoir créer cette relation individuelle avec les gens, c'est vraiment le concept de niche, en fait. Moi, c'est mon instinct que les gens sont moins uniques qu'ils le pensent et que c'est possible d'écrire quelque chose qui va donner à des milliers de personnes ou même à des dizaines de milliers ou dans certains cas encore plus, à des milliers de personnes l'impression que tu leur parles directement et que tu as presque lu dans leurs pensées. Et c'est intéressant parce que tu découvres avec ça que bah, cette personne, tu ne la connais pas et pourtant l'impression que tu la connais de manière intime parce que les gens sont moins différents les uns des autres qu'ils l'imaginent.
J'adore absolument ce que tu dis parce que c'est quelque chose pour lequel je milite justement et c'est aussi pour ça que je n'aime pas le concept de client idéal parce qu'en fait, on est à la fois tous différents, mais on est moins unique qu'on le croit parce qu'on a plus de points communs qu'on le pense avec les gens qui nous ressemblent. Donc, on peut tout à fait avoir des clients qui sont parfois des hommes, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être, il peut y avoir des différentes catégories socio-professionnelles, différents âges, etc. Mais ils vont avoir des points communs sur ce qui compte vraiment par rapport au domaine dans lequel on les aide. Et ces points communs-là, Ça va être des points communs par rapport à ce qu'ils ont déjà essayé, peut-être ce qui a déjà marché pour eux, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, ce qu'ils ont comme vécu, ce qu'ils ont comme ressenti par rapport à ça, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'ils veulent donner, est-ce qu'ils ont envie de concrétiser, de résoudre, comme envie de résoudre aussi comme problématique. Tous ces points, tout ça, ce sont des points communs qu'on a avec les gens qui nous ressemblent. Et du coup, à partir du moment où justement tu connais vraiment sur le bout des doigts, on va dire une dizaine de personnes, tu peux leur écrire comme si tu leur écrivais à elles en fait individuellement, ou leur parler dans un podcast ou dans une vidéo sur tes réseaux sociaux, même si bon, moi c'est le mail que je privilégie, et leur parler à elles en ayant ces points communs en tête, et qu'il y a 100 fois plus de personnes qui vont se sentir concernées parce qu'ils leur ressemblent. Parce que tu as mis le doigt sur leur point commun, leur vrai point commun.
Est-ce que tu as des stratégies particulières que tu utilises ou qui sont un peu uniques à toi en matière de recherche de marché? Comment est-ce que tu identifies ces besoins chez les gens? Parce que c'est une des choses que tu perds par rapport à la conversation, c'est-à-dire que dans un commerce plus traditionnel où tu es forcément amené à parler à ton client et à avoir des conversations, le fait de comprendre les besoins du client, ça vient relativement naturellement dans le sens où tu es directement en contact. Et dès que les gens montent un business sur Internet, ils ont la possibilité d'aller très loin et de passer beaucoup de temps sans jamais rentrer en contact directement avec un client. Et il faut être finalement proactif et il faut faire des efforts qui sont significatifs pour vraiment créer ce contact et créer cet échange avec notamment la profondeur dont tu as besoin. Parce que, OK, si les gens laissent des petits commentaires sur ma chaîne YouTube, ça ne me dit pas vraiment quels sont les besoins profonds. Donc, il faut que j'aille plus loin. Je serais curieux de savoir, toi, quels sont les tactiques que tu affectionnes particulièrement ou des choses peut-être un peu imprévues qui, toi, t'ont vachement aidé à identifier ces besoins?
Tu sais déjà, je pense que même dans la vraie vie, entre guillemets, on a tous fait l'expérience des vendeurs qui, justement, ne t'écoutent pas. Tu vois, que tu arrives dans une boutique, que ce soit une boutique de vêtements, une boutique d'appareils technologiques, et toi, tu arrives et le vendeur, il ne t'écoute pas et tu as l'impression que tu ne comprends pas forcément ce qu'il dit, il essaie de te refourguer quelque chose. Et on a horreur de ça dans la vraie vie et souvent, on fait ça sur le net sans s'en rendre compte. Moi, ce que je sais bien faire et ce que j'apprends aussi à faire, c'est à écouter. Parce que ça m'énerve, en fait, quand on considère le web comme un haut-parleur. Donc oui, le web peut nous aider, et heureusement, et c'est génial, à toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus de personnes que celles qui sont dans notre environnement direct physique. Mais le web, c'est surtout un outil génial pour écouter. Alors, c'est ce que j'écris dans le livre, mais vraiment, regardons, considérons le web comme un stéthoscope pour aller écouter les gens, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as les groupes Facebook, tu peux utiliser Amazon, tu peux utiliser, comme tu l'avais expliqué sur ton blog d'ailleurs, même Facebook Insights. On a énormément d'outils à notre disposition pour aller savoir ce qui se passe dans la tête des gens, faire des recherches, avoir leur propre formulation et, avec notre expertise, apprendre à les connaître, en fait, nous qui se connaissent eux-mêmes.
C'est quoi tes outils préférés ici? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un processus très simple qui est largement basé sur des sondages assez spécifiques qui vont souvent être les mêmes, notamment quand on est en train d'étudier avant de faire une nouvelle formation, et j'ai des sondages assez spécifiques que je fais. Et c'est ma grande manière dont je vais faire de la recherche de marché. La seconde étant, j'ai un forum privé qui s'appelle Marketing Mania Insiders, avec dedans essentiellement, c'est les gens qui sont mes meilleurs clients et les gens qui sont déjà fans de ce que je fais. Et je vais aussi leur poser pas mal de questions sur la manière dont ils voient les choses. Et comme c'est un plus petit groupe, les retours sont assez gérables et je peux directement rentrer dans les conversations avec les gens, poser des questions. Et aussi, j'ai du contexte sur qui les gens sont, puisque je connais assez bien tous les gens qui sont dans le forum. Donc, c'est les deux grands outils que je vais utiliser. Après, c'est aussi les outils, et j'ai conscience de ça, qui viennent du fait que j'ai déjà un truc qui est établi et qui ne serait pas facilement reproductible en partant de zéro. Toi, quels sont les outils que tu utilises aujourd'hui qui sont les plus efficaces pour toi, ou alors éventuellement que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui part de zéro et qui n'a pas encore cette base de gens qu'il connaît déjà?
En fait, qu'on parte de zéro, qu'on soit plus avancé, je pense que ça marche dans tous les cas. Et il y a plusieurs, je recommanderais en fait trois points qui regroupent en partie ce dont tu parles. Il y a déjà, dans le dernier, je dirais, il faut déjà On va y revenir parce qu'il faut déjà effectivement connaître des gens. Mais je dirais le premier point, c'est d'aller voir dans le domaine dans lequel on est, d'accord, il y a une conversation autour de ce qu'on fait. On peut être dans le marketing, on peut être dans le yoga, on peut être dans le SEO. Il y a déjà des personnes qui apportent quelque chose à la conversation. On peut les appeler des concurrents, on peut les appeler des partenaires, on peut les appeler des collègues. Mais il y a des personnes à qui on veut être associé, comparé. Donc déjà, ces personnes-là, elles ont une audience, elles ont des groupes, elles ont parfois des magazines, des chaînes YouTube, des podcasts, des livres qui sont publiés sur Amazon. De commencer par prendre, je ne sais pas, deux créneaux de 2 heures, par exemple, pour ne pas y passer, tu vois, 1 mois, et d'aller noter les commentaires des gens, les questions qui se posent, la manière dont ils fonctionnent. Et bah, en 2 fois 2 heures, tu vas vite repérer 5 à 10 personnes qui sont exactement le type de problématique que tu as envie de traiter, le type de personnalité avec qui tu as envie de bosser. Ça, on va dire, c'est une première manière d'utiliser le web comme un stéthoscope.
Et ensuite, tu contactes directement ces gens pour voilà. leur parler.
Après, tu contactes. Moi, quand j'avais commencé, j'avais contacté directement des gens ouais, que j'avais. Et puis en plus, je connaissais absolument personne. Sur le web, j'avais commencé à bloguer aussi, tu commences à envoyer quelques mails, mais vraiment rien, tu vois, c'est tout début, quoi. En quelques semaines, quelques mois, il y a des personnes avec qui ça accroche, et moi, je leur avais dit, écoute, voilà, ce que j'avais commencé par des coachings, donc j'avais dit, voilà ce que je compte proposer comme coaching, j'ai les compétences, j'ai la formation, etc., mais j'aimerais le tester avec des personnes. Est-ce que tu veux être, en gros, mon cobaye ? Enfin, tu vois, je leur expliquais que eux, je travaillais gratuitement pour eux sur, par exemple, 2 sessions et qu'eux, en échange, eh ben, ils ont accepté de répondre à des questions avant, pendant et après.
OK.
Et là, tu fais ça sur, tu vois, 10, 15 personnes. Et on rejoint ensuite le processus dont toi, tu parlais, c'est-à-dire que quand tu as des clients, systématiser aussi le fait de poser des questions avant, qui suivent ta formation, qui fassent ton coaching, poser des questions pendant. Ça peut être des échanges dans un groupe privé, par exemple, et poser des questions après, continuer à prendre des nouvelles des gens après. Pas forcément de tout le monde. Tu vois, mais de au moins une partie des gens, ceux qui avaient, avec qui tu as échangé, etc. Et de suivre comme ça les gens sur le avant, pendant, après. C'est ça aussi qui te permet de vraiment comprendre ce que ton travail leur apporte. Parce qu'on peut... on a une idée, mais on est tellement déjà experts, chacun de nous, dans ce qu'on fait, que c'est assez difficile de vraiment mettre les mots, de vraiment comprendre ce qu'on change dans la vie des autres. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer qu'ils n'arrivent pas à le faire sans nous, en fait.
À ce sujet-là, j'avais une expérience assez intéressante dans le tout premier business que j'avais fait dans la séduction, parce que j'avais essayé de lancer une formation et ça ne marchait pas trop. Et c'était une formation qui avait un positionnement extrêmement large, qui essayait d'apprendre un peu tout et de faire un peu la solution à tous vos problèmes, tu vois, la pilule tout en un. Et évidemment, c'est une promesse qui est assez compliquée à vendre et qui, en fait, ne parle à personne. Donc, ma formation ne marchait pas trop. Et à peu près à cette période-là, j'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des emails. Et pendant très longtemps, j'ai répondu absolument à tous les emails que je recevais. Et pendant très longtemps, j'ai même répondu à tous mes commentaires aussi sur YouTube. Et ça venait, en fait, de cette période où les gens qui répondaient à mes emails, je discutais avec eux. Et souvent, on entrait dans une espèce de relation de coaching informel et gratuit. Et il y avait un gars en particulier que j'avais vraiment coaché pendant des mois et des mois et des mois par email. Quoi. On s'envoyait probablement 3 à 4 échanges d'emails par semaine et des longs emails, tu sais, le genre d'email où la personne te raconte sa biographie entière et toi, tu lui tapes, tu prends 20 minutes pour lui taper 12 paragraphes de réponses, etc. Et ensuite, j'ai lancé une seconde version. Donc, j'avais refait la même formation, mais dans une... avec un axe qui était totalement différent, une promesse qui était totalement différente. Donc, au lieu de promettre tout et de faire la formation ultime, en fait, j'avais fait une promesse qui était beaucoup plus réduite sur comment surmonter ta peur. Et ça venait entièrement des conversations que j'avais eues avec un gars, en fait, une personne que j'avais accompagnée. Et essentiellement, je lui avais donné des conseils. Je fais « Ok, tu vas faire ça. » Il l'avait testé. « Ensuite, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas faire ça. » Et les expériences de cette personne avec qui j'avais pu échanger, du coup, et j'avais... Tu vois, je le connaissais comme une des personnes que je connaissais le mieux dans mon entourage parce que je lui parlais extrêmement souvent. Et il y avait cette relation intéressante qui était que je pense qu'il se serait ouvert à personne dans son entourage au point où il s'est ouvert à moi sur ses problèmes de cœur, etc. parce que voilà, c'était une personne assez réservée, mais tout d'un coup, il avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas directement avec cette distance de l'email et du fait qu'on ne se soit jamais vu en personne et qu'on se soit jamais, on s'était déjà parlé au téléphone, mais je pense sans image sur Skype.
Oui, il ne se sentait pas, par exemple, jugé.
Et donc, il y avait cette distance de, un peu du confessionnal ou du psy, et j'avais la connaissance ultime de cette personne. Et en fait, ce n'était pas forcément une approche quantitative, dans le sens où je n'ai pas fait une étude de marché sur 2000 consommateurs français pour avoir, tu vois. Et une seule personne, ce que j'avais appris en parlant avec lui, c'est extrapolé extrêmement bien, et c'était le produit qui m'a vraiment fait gagner mon premier revenu sur le web. Venait de ça, en fait, de la conversion que j'avais avec une personne qui répondait à mes emails et qui était mon premier super fan.
Mais c'est ça, c'est hyper intéressant pour ça. Ça me donne, enfin, je crois que je pourrais parler pendant 3 jours par rapport à ce que tu viens de dire. Je vais essayer de résumer parce que c'est hyper intéressant, Stan, ce que tu dis à plusieurs points. Je vais en garder deux. Il y a déjà le premier, c'est que justement quand on est sur le web ou quand on a... Enfin voilà, on veut développer forcément des formations, etc. parce que il y a le gain de temps, le fait de pouvoir revendre, etc. Mais ce n'est pas la case départ, la formation. Si tu n'as pas déjà de l'expérience du terrain avec les vrais gens, déjà, c'est très difficile de mettre au point une formation que les gens peuvent suivre au niveau pédagogique parce qu'on n'a pas l'expérience de ce suivi-là. Et c'est encore plus difficile de la vendre parce qu'on ne peut pas inventer la promesse. On ne peut la faire qu'à partir du moment où on sait vraiment ce qu'on apporte à l'autre. On sait vraiment ce qui change et on peut le dire dans son langage à lui. Donc, on a parlé du coaching gratuit, il y a le coaching payant aussi. D'ailleurs, moi, ce que je recommande toujours, c'est avant de faire une formation, faire la même chose.
Je suis très d'accord.
En one-on-one, en fait, tu vois, en tête-à-tête avec certaines personnes. Ça peut être en stage, ça peut être en présentiel, ça peut être sur le net, mais de vraiment savoir le faire. Et puis après, il y a toutes ces actions dont tu parles au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, et on le fait tous dans une certaine mesure, même si on le fait moins quand on a progressé qu'au début. Mais c'est tout simplement d'écouter les gens et de répondre à leurs questions. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mail, parce que des fois, on me dit, mais comment est-ce que c'est... Voilà, quand je donne les questions à poser à mes clients, ils me disent, mais ils ne vont jamais me répondre ça. C'est quand même vachement intime comme question. Je lui dis, demande, tu vas voir. Et effectivement, quand on pose les bonnes questions aux bonnes personnes, dans un contexte où il y a déjà de la confiance, ça va beaucoup plus vite que si on connaissait la personne dans la vraie vie. Les gens, des fois, quand ils sont sur ta mailing list, ils ont l'impression de te connaître parce que des fois, en 2 mois ou même en 2 jours, ils vont consommer beaucoup de contenu à toi. Ils vont se sentir proches de toi. Et s'ils te posent une question et que tu leur réponds, il y a comme des barrières qui sautent et tu vas apprendre plein de choses sur ces gens-là. Tu vas vraiment pouvoir les aider. Et là, tu vas développer des vraies compétences. Des vraies compétences dont tu peux te servir après, je veux dire... au niveau du marketing, du copywriting, etc. Parce que c'est leur vécu, c'est leur mot.
Au niveau de cette idée de...
Et il y a un deuxième point. Ah oui, tu as dit finalement, j'ai appris juste avec une personne beaucoup plus. Et ça, c'est une statistique que j'ai remise dans mon livre d'ailleurs. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Mais ils disent, tu sais, c'est assez... Des fois, quand je dis, mais allez échanger en direct avec les gens... Comme tu as fait, on peut se sentir un peu vulnérable et c'est plus facile d'aller faire un sondage, par exemple, au début, plutôt que d'échanger en direct avec les gens. Mais ça a été calculé. Je crois qu'échanger en tête-à-tête ou même par mail ou par Skype avec 10 ou 15 personnes, ça t'apporte 80% des résultats de je ne sais plus combien de focus group, mais c'est énorme. C'est-à-dire que si tu échanges juste avec 5 à 10 personnes, tu vas obtenir autant de résultats, même de meilleures connaissances sur les gens, que si tu fais venir 80 personnes en groupe. Je pourrais te redonner les chiffres exacts, mais c'est impressionnant. Il faut échanger avec les gens, en vrai.
Donc à ce sujet-là, je suis d'accord avec toi que je pense que les gens font trop vite sur la création de formations automatisées en ligne. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup été vendu cette idée du revenu passif et qu'il suffit de faire une formation, de mettre un ClickFunnels et de faire tourner du cash money toute la journée. Et du coup, les gens négligent un peu cette idée de « Tiens, si je ne faisais pas du coaching pendant 6 mois, 1 an, et essayer de le monter étape par étape. » Et j'ai vu pas mal de modèles intéressants dernièrement. Une boîte que je suis pas mal aux États-Unis, c'est la boîte de Ramit Sethi. Et dernièrement, ils ont innové sur pas mal de modèles que je trouve assez cool, notamment avant de lancer un nouveau programme. Ce qu'ils font, c'est qu'ils en font une version condensée qui va durer en version environ 2 heures et qu'ils vont faire sur un espèce de webinaire, en fait. Donc, il faut payer quelques centaines de dollars pour avoir accès à cette version condensée. Donc, tu as un webinaire où il est là, il a ses slides, il présente essentiellement la version condensée de son programme et l'essentiel de sa proposition de valeur. Et il va ouvrir énormément de questions. Donc, il va ouvrir les questions et il va voir les questions que les gens se posent, etc. Et donc, ils ont une page de vente extrêmement minimaliste de ça parce qu'il faut rentrer que 30-40 personnes. Mais ils vont un peu bêta-tester leur programme comme ça. Et ensuite, ils vont raffiner ça dans un truc complet. Et j'ai vu que récemment, ils ont encore innové sur ce modèle. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est que au lieu de faire un webinaire, ils font un événement live à New York où tu peux aller et il va présenter en live son contenu. Donc, le même format. En quelques heures, il va présenter l'essentiel de la formation et voir les questions que les gens ont. Et c'est en fait maintenant une étape, tu vois, même une boîte qui est développée comme ça, et eux, leur chiffre d'affaires, ça se compte dans plus de 10 millions de dollars, donc ils ont les ressources, ils avaient besoin de faire des recherches de marché, mais ils se disent, OK, évidemment, on va faire nos sondages, nos trucs, mais il y a des étapes qui nous permettent d'avoir cette connexion avec les gens et de voir un peu ce qui intéresse vraiment les gens. Et c'est pas mal sur ces idées-là actuellement que je travaille, sur l'idée de comment est-ce qu'on peut avoir une approche plus lean startup essentiellement de la création de contenu, de la création de formation.
Mais de toute façon, il n'y a pas d'étape, je crois qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas de domaine dans lequel on peut remplacer la conversation. Tu vois, comme j'ai cité justement dans Internet et une table pour deux, le Clutuel Manifesto, où ils disent le langage du commerce, c'est la conversation. Et quel que soit le produit, le service, la formation que tu vends, on ne peut pas remplacer ça. Et Ramit Sethi, que je n'ai pas suivi récemment, mais lui, c'est vraiment un fanage justement d'aller converser avec les gens, d'aller savoir exactement ce qui se passe dans leur tête, de tester les idées, de prendre les formulations. Et pourtant, voilà, il est millionnaire, il a une boîte énorme, etc. Mais ce n'est pas un truc de débutant, je veux dire. Et il y a un autre CEO qui m'avait impressionné par rapport à ça, c'est le CEO de TechSmith. C'est ceux qui font Camtasia, entre autres. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme logiciel, Stan.
Ouais, Camtasia, un logiciel de capture d'écran et de montage. Aussi un outil que j'adore et que j'utilise 100 fois par jour, qui est Snagit, qui est une version plus basique, qui permet notamment de faire des captures d'écran et des enregistrements vidéo. J'adore ce truc-là.
Ouais, ils ont Jing, ils ont Snagit, ils ont Camtasia. Enfin, tu vois, c'est une grosse boîte. Et donc, moi, j'utilise Camtasia. Et j'ai reçu, je crois que c'était l'année dernière, je trouvais ça génial, j'ai reçu un mail du CEO qui disait, j'aimerais discuter en tête-à-tête, en fait, avec vous en tant qu'utilisateur de Camtasia pour vous poser quelques questions, savoir comment ça se passe. On est en train de travailler sur la nouvelle version, etc. Ça prendra 20 minutes sur Skype, si vous êtes dispo. Et c'était vraiment un moment où je ne pouvais pas, parce que sinon, au niveau marketing, je trouvais ça génial. J'aurais bien aimé participer. Mais voilà, tu vas te dire, il n'y a pas de taille de boîte ou de domaine ou de position où on est au-dessus, en fait, de l'échange avec les personnes concernées.
Ceci étant dit, à un certain point, ça devient quand même plus compliqué. En sens où, moi, pendant les emails, j'ai vraiment répondu à tous les emails que j'ai reçus.
Ce que je veux dire, c'est bon, déjà, justement, après, tu réponds à suffisamment de mails, tu as été suffisamment longtemps pour plus avoir, dans l'échange avec les gens, pour plus avoir besoin de faire ça au quotidien pour les connaître. Mais ça n'empêche que, regarde, tu organises des dîners, par exemple, de temps en temps. On s'était rencontrés comme ça à Paris quand tu avais organisé, tu vois, un dîner avec tes abonnés. Tu as quand même... Et puis même, on parle du CEO de TechSmith, il ne va pas prendre 100 personnes en appel. Peut-être qu'il va en prendre 10 sur une demi-journée, une fois dans l'année. Tu vois.
Justement, j'ai dû trouver pas mal d'astuces pour minimiser un peu cet input, essentiellement des filtres ou des moments particuliers. Donc les dîners, pour moi, contextualiser un peu pour les gens, c'était un très très grand succès pour moi sur les objectifs que je m'étais fixé. Essentiellement, j'étais passé en France, j'avais quand même quelques semaines à Paris et j'organisais chaque semaine 2 dîners. Donc j'avais fait un appel à l'action sur ma liste email qui était si vous voulez dîner avec moi, etc., venez là. Et ensuite, les gens pouvaient réserver et chaque dîner était limité à 5 personnes, il me semble. C'était 5 ou 6 personnes qui étaient limitées par dîner.
On était vraiment en petit groupe, c'était super.
Parce que au-delà, moi, c'est trop. Enfin, c'est plus un truc personnel. C'est qu'au-delà de 5 ou 6 personnes, ça fait trop pour moi et c'est vraiment
après,
fatigant.
Tu peux pas
J'ai pas le temps de
échanger
parler avec les gens.
avec les gens.
Donc, au final, seulement une fraction des gens qui avaient envie de venir au dîner ont pu venir. Et c'était vraiment, pour le coup, au premier arrivé, premier servi sur les inscriptions. Mais ça mettait ce filtre qui était. Le truc, c'est que si je faisais une rencontre abonnée aujourd'hui à Paris, il y aurait un nombre de gens qui viendraient qui seraient ingérables pour moi.
Ouais.
Et j'aurais le temps de parler à personne. J'ai vu déjà le truc qui m'a mis le plus la flip de ma vie, c'était j'avais été à la rencontre abonnée de Antoine BM quand il avait 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.
Ouais.
Et il y avait vraiment beaucoup de monde, tu vois. Il y a vraiment des dizaines et dizaines de personnes qui étaient tous là pour le voir.
Bah ouais.
Donc, il y a un sens où tu es un peu obligé de parler aux gens. Tu ne vas pas dire aux gens, venez me rencontrer et ensuite parler à deux personnes dans la soirée, tu vois.
Et puis il faut se respecter aussi en tant que tempérament, parce qu'on peut avoir un tempérament extroverti ou plutôt introverti. Et quand on est introverti, c'est difficile de rencontrer plein de gens à la fois. Enfin, moi, comme je suis comme ça aussi, c'est...
Ouais. Et donc, du coup, les dîners, c'est une manière assez intéressante parce que du coup, tu peux vraiment parler avec les gens en profondeur. Il y a plein de gens des dîners avec qui je suis resté en contact. Après ça, tu vois, ça a créé un truc particulier. Et l'autre astuce que j'ai, c'est bien sûr mon forum. Comme le forum, il est accessible uniquement aux gens qui sont clients de mes formations, ça fait quand même un grand filtre. Et des 200 000 personnes qui me voient sur YouTube, je passe tout d'un coup à seulement quelques centaines de personnes qui sont qui ont cet accès-là. Et quelques centaines de personnes, c'est très gérable, tu vois. Tu peux savoir essentiellement qui sont les gens et avoir un contexte sur eux, savoir quels sont leurs business et te souvenir un peu des conseils que tu leur as donnés. Donc, du coup, tu essayes de mettre ces filtres-là, mais effectivement, de toujours garder ce contact et de toujours avoir un input direct qui ne soit pas trop modulé, notamment par les chiffres. Je pense que tu peux pas mal avoir de données sur ce sur quoi les gens cliquent et ce qui fonctionne. Mais c'est compliqué de savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne si tu n'as pas de moyen de leur poser directement la question ou de voir, eux, notamment, quelles sont leurs objections, tu vois.
Et justement, disent, tu vois, par rapport à cette démarche-là, parce que justement, la problématique que tu soulèves, elle est super intéressante, le fait qu'à partir du moment où tu commences à avoir une audience, et même sans avoir 200 000 abonnés sur YouTube, tu commences, quand tu vas à des événements, même d'autres personnes, on te reconnaît, il y a beaucoup de gens qui viennent te parler, donc il y a ce côté aussi de comment je gère, comment je mets des filtres. Et dans les personnes qui nous écoutent, il y en a peut-être ceux qui vont se dire, oui, bah, moi, là, par exemple, bah, j'ai... Tu vois, personne ne me connaît, donc pourquoi est-ce qu'on passerait une demi-heure à parler avec moi? Pourquoi est-ce que si j'invite quelqu'un à un café, on viendrait? Et donc, je voudrais répondre à cette question-là parce qu'on me la pose souvent. C'est que dans nos vies quotidiennes, en fait, c'est super rare que quelqu'un prenne le temps de vraiment t'écouter sans essayer de te faire changer d'avis ou de te raconter sa vie ou de te convaincre de quelque chose. D'accord? Mais à partir du moment où on a vu déjà plusieurs moyens de repérer des gens qui pourraient être vraiment intéressants pour toi, pour connaître ta niche, pour connaître ta cible, on a parlé des réseaux sociaux, des échanges sur les mails, dans les groupes, etc. Si tu repères 5 à 10 personnes comme ça et que tu les invites une par une autour d'un café en priorité et ensuite par Skype, si géographiquement c'est pas possible, ou au téléphone, cette personne-là va passer un super moment grâce à toi, en fait. Elle te rend service parce que tu peux lui poser tes questions, mais c'est aussi un grand service que tu lui rends parce que tu vas l'écouter, tu vas lui poser des questions. Moi, on m'a souvent dit, en fait, rien que d'avoir répondu à ta question, eh ben, j'y vois vachement plus clair. D'accord ? Quand les questions sont bien posées et quand la personne qui te pose les questions essaye pas de te faire changer d'avis, de te raconter son expérience par rapport à ça ou de te convaincre de quelque chose, elle est là pour t'écouter à 200%, tu passes un super moment et c'est rare. Et 100% des personnes avec qui tu passes un moment comme ça, même si elles ne te connaissent pas à la base ou que tu es encore inconnu, entre guillemets, 100% de ces personnes-là éprouvent de la gratitude après.
C'est un peu la même chose, notamment par exemple sur les interviews, tu vois. Moi, je fais pas mal d'interviews où les gens m'interviewent et au final, je me dis... c'est cool, tu vois, d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui te pose des questions et qui s'intéresse à toi, quoi. Quel que soit ce que tu fais, c'est quand même gratifiant. Et je pense que, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et je pense que les gens ne l'utilisent pas tant que ça. Il y avait des modèles intéressants où tu peux te dire, tu peux presque... Donc, des gens qui faisaient des tests comme ça, où en général, c'était un gars qui montait des boîtes de logiciels, en fait. Et il dit, tiens, est-ce que je pourrais pas monter un logiciel pour... Les gens qui vendent des voitures, tu vois, genre les vendeurs de voitures. ou les dentistes, ou tu vois, ils se mettaient un peu un défi de trouver un truc où ils connaissaient rien, et de voir si juste en appelant les gens et en leur posant des questions sur leur quotidien, hey, dites-moi, qu'est-ce qui vous prend du temps dans la journée, où est-ce que vous perdez le plus de temps, etc. Et ils arrivaient à chaque fois à trouver des idées comme ça de logiciels qu'ils pouvaient lancer, juste en posant les questions au téléphone à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui, qui n'avaient aucune relation
c'est
avec
génial.
Lui, juste parce que les gens adoraient parler de leurs problèmes, en fait. Et aller dire, ah non, on a ce nouveau truc et ça fonctionne pas, et les gens prennent des rendez-vous mais ils sont pas là, ils font, ah tiens, vous avez, et si, ouais, on vous mettait, voilà, un système de rappel de rendez-vous et tout, et ça c'est applicable presque c'est... n'importe où, effectivement.
On a tous besoin d'être entendus, et finalement il y a qu'à voir de toute façon tous les livres de développement personnel et tout ça qui sont publiés. On a besoin d'être entendu, et la plupart d'entre nous, on ne se sent pas écouté dans nos vies de tous les jours. Donc, par contre, je dis, il faut vraiment distinguer deux choses quand on fait des entretiens comme ça avec des gens. On n'est vraiment pas là pour vendre, d'accord ? On est là pour les écouter. On vendra mieux, justement, après, parce qu'on les aura écoutés, que du coup, on va vraiment faire du sur-mesure. On va vraiment adapter son offre, son message aux vrais gens. Mais quand on échange avec ces personnes-là, c'est vraiment, on est vraiment dans la latitude du stéthoscope dont je parlais tout à l'heure. Donc, d'écouter, de poser des questions, d'aller au-delà de la première réponse. Savoir vraiment le pourquoi du pourquoi. Et c'est rare que quelqu'un prenne le temps de nous écouter comme ça. Donc, tu ressors d'un entretien comme ça, t'as plein d'énergie parce que t'es... ton client potentiel en face il t'a donné plein d'idées, et parce que tu te prends en pleine tête la gratitude de la personne en face aussi. C'est une super relation après qui se développe.
Je voudrais parler un peu du livre, et notamment de pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire ce livre. Qu'est-ce que toi ça t'apporte d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue de communication d'écrire un livre et de mettre tout ça dans un document?
Comment dire ? Déjà, moi, quand j'ai... ce que je fais donc dans le marketing, dans le copywriting, le content marketing, tout ça, je le faisais essentiellement avant d'écrire le livre en premium, c'est-à-dire, tu vois, des formations qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des accompagnements qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et je n'avais pas de petits produits. J'en ai développé cette année, mais je voulais... vraiment aussi écrire le livre pour que des personnes qui me connaissent pas, qui me connaissent pas en tout cas suffisamment pour aller vers des formations premium, ou qui en sont pas encore, tu vois, au stade de pouvoir investir dans des formations, dans du coaching, puissent avoir accès facilement à une autre version du marketing, et surtout qu'ils soient pas dans le blabla, je ne sais pas comment dire, parce qu'on parle, tu sais, face à ce dont on parlait tout à l'heure, la technologie, etc., il y a une grande vague qui est montée un peu de ce que j'appelle le marketing sans gluten. C'est le marketing bio, on va te dire, viens vendre sans vendre, et on va faire du marketing éthique et du marketing authentique. Et moi, ça m'énerve un peu parce qu'on ne peut pas vendre sans vendre. Enfin, à un moment, on assume, quoi. Je trouve que c'est beau, la vente, et c'est surtout, ok, on remet l'humain au cœur du marketing, mais concrètement, comment on fait ? Je voulais vraiment quelque chose un livre que tu puisses lire, tu vois, en 2-3 heures, et qui soit plein de conseils et qui soit accessible. Ça, c'était un premier point, tu vois, niveau stratégique aussi. Et puis après, à un niveau personnel, en fait, ça me démangeait. Il y a un jour, je ne sais pas si tu as lu, tu vois ce que c'est comme livre, de Cluetrain Manifesto.
Non, mais il est cité dans ton bouquin.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un livre qui a été, pour remettre le contexte, il a été publié à la fin des années 90, donc c'était le tout début, en fait, d'Internet. Et donc, c'était une équipe de visionnaires qui a vu à la fois le potentiel du web pour le commerce et le danger du web pour le commerce, c'est-à-dire le fait qu'avec les écrans, d'un côté, on allait pouvoir toucher beaucoup plus de personnes, et de l'autre, on risquait de perdre le côté traditionnel du commerce, dans le sens, ce côté relationnel. Et donc, ils ont fait un manifeste comme ça avec une centaine de personnes et une centaine d'entrées. Et il y a une citation dans ce livre où il dit « Quand vous pensez à Internet, pensez pas à des camions qui vont livrer des centaines de produits vers vos destinataires, vos clients, etc. Quand vous pensez à Internet, pensez à une table pour deux. » Et quand j'ai vu cette phrase-là, je sais pas, ça m'a fait un... je savais que j'allais écrire, enfin que c'était exactement ma vision des choses et que j'allais écrire ce... J'ai gardé ce livre-là à l'intérieur pendant un moment jusqu'à ce qu'un collègue qui me dise « Quoi, ça fait un an que t'as le titre et que t'as le plan, je te donne une semaine pour l'écrire. Et... »
Tu l'as écrit en une semaine ?
Non, en fait, j'ai dit « Je vais aller ». J'ai négocié 3 semaines et je l'ai écrit en 3 semaines. Mais comme je te disais, j'avais déjà le titre et j'avais le plan, genre depuis un an, en fait. Et je savais que c'était ce pourquoi, en 2 mots, je voulais être connue. Et Internet est une table pour deux. Et quand donc c'était Rémi Bigot qui m'a dit « Quoi, ça fait un an que tu as ton plan, voilà, je le veux sur mon bureau dans une semaine », ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, j'avais aucune idée du nombre de mots, donc je m'étais fixée, j'avais cherché et j'ai trouvé quelqu'un qui disait qu'en gros, un livre, c'était à peu près, c'était minimum 25 000 mots, je crois. Ou 28 000, je ne sais plus. Donc, je m'étais dit, voilà, il faut que j'écrive.
Ça sent.
Enfin, disons qu'au moins, ça me faisait un ordre d'idée. Et donc, j'ai écrit comme une dératée pendant une semaine, mais sans remonter en haut, tu vois. Même si les phrases n'avaient ni queue ni tête.
En une semaine, donc, tu as écrit un truc genre 5 à 7 000 mots par jour.
Ah, à part mes rendez-vous clients, je ne faisais que ça. Je parle de temps professionnel, hein. J'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Donc, j'ai vraiment... je me levais à 5 heures du matin pour écrire de 5 à 7. Voilà, j'ai écrit, et puis pendant la journée, j'avais mes plages, etc. J'ai écrit le livre. Enfin, j'ai écrit quelque chose, mais qui était illisible, hein, on est d'accord. Mais pendant une semaine, mon but, c'était d'arriver en gros à 28 000, 30 000 mots. La deuxième semaine, c'était de dire, bon, là, j'arrête d'ajouter des idées, on retrousse les manches, et je mets ça dans... Je commence à mettre les choses dans mon plan. Tu vois, structuré. Et une fois que ça s'était fait, la troisième semaine, c'est le plus difficile. C'est là, une fois que tu as ton plan qui est rempli, etc., là, c'est de vraiment rédiger le truc, quoi.
Donc, passer sur une relecture et couper les phrases qui sont répétitives.
Ah, mais c'était plus qu'une relecture, ouais. C'est-à-dire... ouais, voilà. Moi, ce que je recommande, s'il y a des personnes parmi celles qui t'écoutent qui veulent écrire un livre, c'est de vraiment d'avoir une petite team extérieure de gens qui sont là pour voir où t'en es, où tu reçois des messages tous les jours. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression que j'allais jamais y arriver. J'avais jamais arrivé de t'écrire les phrases, etc. C'était essentiellement des clients à moi qui voulaient vraiment que j'écrive ce livre, ou des collègues, et qui me demandaient tous les jours ou tous les 2 jours. Alors, t'en es où, quand est-ce que tu me l'envoies? Et c'est comme ça que je suis arrivée, au bout des 3 semaines. Et puis après, je l'ai envoyé à ma liste pour un premier feedback. Et j'ai eu des super feedbacks, des trucs... Le livre n'a pas vraiment changé, mais par contre, on m'a suggéré des trucs à rajouter. Tu vois, comme les schémas, les récaps, les encadrés, tu vois, des choses comme ça. Donc ça a rajouté aussi forcément des mots dans le livre pour qu'ils soient encore plus pratiques, si tu veux. Tu vas les reprendre, les exercices à part, voilà, des choses comme ça.
Et c'est toujours comme ça que tu écris quand tu écris du contenu? Est-ce que tu es toujours à faire un premier jet assez brutal et ensuite à le réorganiser? Parce que moi, je suis assez méticuleux dans la manière dont j'écris, en fait. Et mes relectures vont surtout être... Donc, le plan est déjà vraiment bien défini, les points sont déjà bien définis. Mmh. Et ma relecture va surtout être de jouer un peu sur les éléments de langage, notamment de condenser un petit peu certaines phrases, de rendre certains éléments plus visuels, d'enlever un terme qui est un peu mou et de le rajouter par un meilleur terme. Mais au final, je m'aperçois que le premier jet, du coup, n'est pas extrêmement prolifique, parce que je n'avance pas si vite que ça, parce que je réfléchis vraiment à ce que je suis en train de dire. Mais du coup, une fois que c'est fait, c'est fait, tu vois. Et je serais curieux de voir si toi, tu travailles toujours de cette manière, ou est-ce que tu as modifié ta manière d'écrire pour le livre parce que tu avais besoin de sortir 28 000 mots aussi rapidement, et que si tu sors 850 mots par heure, c'est compliqué.
Bah, en fait, il faut savoir que des fois, je peux passer une heure complètement à sec. Hein. Mais... Il y a un TED Talk d'ailleurs de Elizabeth Gilbert où elle dit qu'en gros, tu sais, ton job, c'est... Enfin, tu vois, que les idées viennent d'ailleurs et que l'inspiration vient d'ailleurs, et ton job, hein, c'est de t'asseoir pour écrire et de t'asseoir régulièrement pour écrire. Mais moi, effectivement, j'ai un processus d'écriture qui n'est pas... Je suis fascinée par les gens qui écrivent de A à Z comme ça. Moi, je n'écris pas comme ça. J'ai plein d'idées et des fois, c'est à sec. Et les moments où les idées viennent, des fois, je vais avoir des idées un peu qui se télescopent. Je ne sais pas si ça te fait ça, ou tu écris un chapitre, ou tu écris un mail, d'écrire un article et tu vas avoir des idées géniales qui arrivent, mais c'est pas pour celui-là. Donc, je vais les mettre de côté, mais je vais les écrire un peu quand même, tu vois, pour pas les perdre. Et après, je vais revenir dessus. Donc, c'est pour ça que... Tu vois, le livre, des fois, j'étais sur plusieurs chapitres en même temps. Je suis rarement sur un seul mail ou sur un seul article en même temps.
OK.
Parce que quand j'en commence un, ça en ouvre d'autres. Et c'est voilà, c'est un process où j'apprends à lui faire confiance aussi, de dire ça ressemble à rien quand je commence. Mais je sais que quand j'aurai été fini, ce sera super. Tu vois, de pas lâcher le truc. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est parce que tu sais, on dit souvent, si t'es pas inspiré, vas-y, écris, te relis pas, on voit comme ça. Ben, tu vois, pas forcément, on peut avoir des processus d'écriture, des processus créatifs, et des fois, ça peut être aussi pour l'écriture d'un podcast, l'écriture d'une vidéo, d'un mail. C'est dans le temps, si tu veux, et l'entraînement qu'on découvre son propre processus d'écriture, et après il y a des techniques de rédaction, de copywriting qui sont géniales pour que le contenu soit plus captivant, mais de se faire confiance aussi de la manière dont on écrit. C'est pas parce qu'on a du mal à écrire parfois qu'on n'est pas inspiré qu'on peut pas préparer un contenu génial pour ses abonnés, quoi.
Tu disais tout à l'heure qu'il y a des moments où t'es à sec. Ça ressemble à quoi quand t'es à sec? T'es vraiment devant ton ordinateur pendant une heure à regarder l'écran et c'est blanc, parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent de la page blanche et tout. Moi, j'ai jamais connu ça.
En fait, disons que j'ai aussi mis en place un process comme qui me permet d'être quasiment peu à sec en utilisant des techniques de storytelling.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup le storytelling, donc je me fais des réservoirs à histoire, des réservoirs à anecdotes qui font que c'est quasiment après impossible d'être complètement à sec. Par contre, parfois, je peux avoir l'idée, je peux avoir l'histoire, je peux avoir les émotions que je veux dégager et ça ne vient pas de suite. Et c'est pour ça que j'avais lu quelque part, c'est un écrivain qui disait « Quand tu as du mal à écrire, écris n'importe quoi. Il faut que tu sois en train d'écrire. » Que ce soit avec ton clavier ou ton crayon, écris ce que tu as fait hier, écris ta liste des courses, écris ce qui te vient, mais écris et il y a un moment où ça se reconnecte, tes neurones et ton inspiration. C'est pour ça que je disais, tu peux tout à fait commencer à écrire un mail et un article et finalement tu pars sur autre chose. C'est une autre inspiration qui vient, vas-y. Et une fois que tu es dans le flow, tu vois, d'être dans l'inspiration, reviens à ton projet de départ.
D'accord. Et ça, c'est un process que tu as toujours eu, parce que moi, j'ai l'impression, peut-être que c'est la manière dont les cerveaux des gens fonctionnent, en fait.
Je
pense que j'ai une manière beaucoup plus structurée, où je vais partir essentiellement d'un plan de très grand niveau, tu vois, essentiellement un plan pour un email ou une page de vente, ou un plan pour une page de vente, par exemple, parce que la page de vente, c'est un projet assez complexe. Beaucoup de gens, je trouve, s'y perdent,
oui,
parce
différent.
Qu'il y a beaucoup d'éléments et on leur donne tellement de trucs de copywriting, la garantie, l'urgence, la promesse, les bénéfices, la liste à puces, que les gens s'y perdent dans les éléments. Et en fait, moi, j'y pense vraiment en mode... je ne sais pas si tu vois ces outils un peu comme... Il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Dynalist, où en fait, tu as des listes à puces et tu cliques sur chaque liste à puces et tu as plein d'autres petits éléments en dessous et tu cliques et tu as encore plein de petits éléments, tu vois. Et en gros, ça s'imbrique. En gros, c'est des listes à puces impliquées dans des listes à puces et c'est vraiment comme ça que mon cerveau fonctionne, tu vois.
Alors, tu vois, pour les pages de vente, c'est différent. Moi, justement, j'ai mon propre process que j'enseigne aussi d'ailleurs. Et alors, par contre, ça, pour une page de vente, je suis typiquement jamais à sec. Tu vois, j'ai un truc hyper carré, un peu comme tu dis. Et puis, une fois que tu connais vraiment bien les gens, tu connais ton produit, tu connais les gens. Je ne dis pas que ça ne prend pas de temps, tu vois, de le faire et de faire un truc, tu vas vraiment fignoler, etc. Mais je vais être jamais à sec. Mais toi, tu es hyper méthodique, même pour des articles, par exemple, ou des mails.
Ou des vidéos.
C'est ça.
Je vais ouvrir une vidéo. Tu vois, je vais ouvrir une vidéo, notamment parce que la vidéo, la structure, elle est moins apparente. Tu as l'impression que je parle juste et que je te raconte un truc et qu'au final, ça tient debout. Mais en général, non, la manière dont la vidéo, elle fonctionne, c'est que j'ouvre une vidéo et je me dis, OK, cette vidéo, il y a une structure en trois parties, en fait. Cinq parties. Boum, boum, j'écris mes cinq parties. Là, j'ai publié aujourd'hui sur la chaîne, bon, ça sera quelques semaines quand les gens le voient, mais une vidéo qui est vraiment un storytelling et qui raconte un peu mon histoire à travers une certaine conférence. Et la structure de cette vidéo n'est pas du tout apparente, mais en fait, si tu avais mon script et mon document, il y a vraiment une structure en cinq étapes. qui suit une structure de scénario avec les différents actes et avec la manière dont l'action va se développer. Tu vois. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, en fait, je peux voir, dès que j'arrive sur la vidéo, de dire, OK, point 1, point 2, point 3. Et après, je peux prendre le point 1 et dire, j'ai trois trucs à dire, boum, 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 pareil. Et tu vois, je peux le développer comme ça. Et en fait, en développant chaque élément de l'idée, de la grande idée à des trucs un peu plus petits, à la fin, tu arrives sur les paragraphes et ça se déroule comme ça. Et du coup, je suis capable de l'écrire de manière linéaire et j'ai jamais besoin vraiment de modifier l'ordre des éléments, etc. Après, parfois, les mots que j'ai utilisés n'étaient pas les meilleurs. Parfois, je me suis un peu répété. Parfois, il y a une section qui est plus longue que nécessaire. Parfois, il manque un exemple. Parfois, il y a un exemple en trop et ce n'est pas aussi intéressant, tu vois. Et donc, ma relecture, moi, je joue vraiment sur le rythme et sur l'expression et sur le vocabulaire. Mais du coup, j'écris pas si vite que ça, tu vois. Et ça ralentit pour le coup mon premier jet où moi, j'ai rencontré un mec récemment qui écrit des bouquins de manière professionnelle. Et je lui fais, t'écris combien de mots par jour? Le mec, il écrit 20 000 mots par jour, tu vois. C'est l'output du mec, c'est 20 000 mots par jour. Mais il a écrit des séries de bouquins, tu vois, de 15 bouquins sur Amazon, de fiction et tout. Et c'est comme ça que le mec gagne sa vie entièrement sur des bouquins Amazon. Et moi, je suis beaucoup plus lent que ça. Je suis beaucoup plus dans une approche méthodique, mais qui après sort assez proche de sa version finale.
C'est ça. Je pense que tu peux avoir deux approches parce que le côté méthodique peut... Par exemple, tu en parlais de pages de vente. Moi, je suis hyper méthodique avec les pages de vente. Je ne fais pas de vidéo, mais peut-être que si j'en ferais, je pense que j'aurais tendance à faire un peu comme tu fais, donc tu parlais, tu vas avoir vraiment un script, etc. Après, j'ai vraiment aussi des techniques de copywriting, de storytelling pour les mails. J'ai l'idée, mais... Moi, je sais que quand j'écris, voilà, j'écris pas. Ce qu'on me dit, ah, mais c'est génial, c'est captivant, c'est fluide, etc. Je dis, c'est fluide à la fin, au début, c'est pas... Ouais. c'est pas si fluide que ça. Et je dis aussi pour rassurer, tu vois, les personnes qui nous écoutent, parce que moi, j'ai longtemps cru qu'un écrivain, si tu veux, ou un auteur, qu'il écrivait en gros de A à Z, tu vois. Un livre qu'on va l'écrire, tu vois, de A à Z, un super contenu qu'on va l'écrire de A à Z et que tu commences par le commencement. Eh bien, des fois, non. Des fois, je vais avoir l'idée, je vais avoir l'anecdote, je vais avoir les points, si tu veux, du mail, mais ce qui va venir, ça va être le dernier point en premier. Tu vois, donc, c'est bien d'avoir des fois des méthodes, des scripts, mais ça... Parfois, on peut avoir besoin de différentes méthodologies ou de différentes approches en fonction de sa personnalité, en fonction de ce qu'on a à écrire. Mais je reste en tout cas convaincue par le côté génial du contenu.
Tu as des livres en particulier sur la créativité qui t'ont parlé ou qui t'ont marqué ?
Il y a un livre sur... Il y a deux livres sur la créativité qui m'avaient vraiment bien plu. Il y en a un, c'est celui de Twyla Tharp.
Que je ne connais pas, c'est le titre.
Comment il s'appelle ce livre? The Creative Habit.
Ok.
Voilà, il est derrière là, The Creative Habit, où elle explique ça justement. Donc Twyla Tharp, c'est une grande chorégraphe qui doit avoir la soixantaine maintenant, américaine. Et elle explique justement qu'être créatif, ce n'est pas forcément un don. C'est pas forcément des méthodes, mais ce sont des habitudes. Donc, elle explique comment prendre l'habitude créative. Alors, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que des fois, tu vois, dans certains contextes, tu vas être plus créatif, par exemple, pour tes pages de vente avec une méthode. Peut-être que pour écrire les mails, tu vas avoir besoin de t'y prendre autrement. Mais au bout d'un moment, de remarquer quel type d'habitude te mettre dans une bonne inspiration et construire ces habitudes-là, de se construire des rituels aussi. Et donc, The Creative Habits de Twyla Tharp. Et l'autre livre que j'ai trouvé absolument génial, c'est le livre de Steven Pressfield. Je ne sais pas si
tu l'art.
Connais, qui s'appelle Turning Pro.
Turning Pro, ok. Qu'est-ce que tu trouves dans celui-là? Parce que lui, il en écrit plusieurs et du coup, ça se mélange un peu dans ma tête. Celui que je connais le mieux, c'est La Guerre de l'art.
La Guerre de l'art.
Je trouve que Turning Pro, c'est un follow-up à ça.
Voilà, j'ai lu La Guerre de l'art après, mais dans La Guerre de l'art, il explique en fait que justement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément fluide, quoi, d'écrire ou de produire des super contenus, parce qu'en tout cas, le marketing, c'est vraiment un domaine qui est très créatif. Et il parle aussi des process, etc. Et il mentionne dans La Guerre de l'Art le fait qu'il y a un moment, en fait, où c'est comme si tu deviens pro dans ton habitude créative ou dans ta volonté créative. Et il détaille ça dans le livre Turning Pro, où il explique qu'il y a un moment, c'est comme si tu traverses une sorte de membrane où tu ne vas plus revenir en arrière dans ce que tu produis. Dans ta créativité, c'est même si au début c'est pas forcément bon, même si pendant des années tu n'as pas de reconnaissance, parce que lui il a écrit pendant je crois 30 ans avant d'être reconnu, c'est juste qu'il y a un moment où tu sais que voilà, même si le processus c'est pas simple, même s'il n'y a pas de reconnaissance tout de suite, tu vas pas retourner en arrière, et tu sais, tu pars du principe qu'à partir du moment où tu veux faire quelque chose de créatif et d'original, tu vas te heurter à, tu sais, il appelle ça comme la loi de la gravité, c'est la résistance en fait. Tu vois, est-ce qu'il parle de ça dans The War of Art?
C'est ça, ouais, c'est le thème central de ce bouquin-là.
Voilà, c'est de la résistance. Et donc, et moi ça, je le ressens, je parlais quand j'écris, voilà, j'ai les super idées, j'ai le plan, et ben, ça va pas forcément être fluide d'arriver à écrire le contenu, mais voilà, j'ai traversé cette membrane-là il y a un moment, et donc je sais que de toute façon, je vais continuer à écrire, et je sais qu'à la fin, ce sera bon. Mais je vais pas lâcher l'affaire. Et il décrit ce passage-là.
T'as pas mal parlé de ces techniques de storytelling, notamment Steven Pressfield, lui, c'est un romancier à l'origine. Il y a certains de tes contenus où tu parles aussi un petit peu de construire ton marketing comme un scénario.
Oui.
Comment tu réfléchis à tout ça?
En fait, moi, depuis que je suis gamine, ce qu'on me demande souvent, est-ce que tu t'es formée en marketing, en storytelling, en copywriting, etc. Et moi, je ne suis pas formée dans le marketing, en fait. Je me suis vraiment formée depuis, je pense, gamine, dans toutes ces histoires, en plus, qu'on nous racontait, vraiment, qu'on nous racontait. Parce que moi, j'ai grandi au Maroc, pas en France. Donc, beaucoup, tu vois, la transmission orale des conteurs, que ce soit dans la famille, dans la rue, etc. D'ailleurs, tu vois, la semaine prochaine, je fais une masterclass sur le copywriting et le storytelling. Je prends les techniques dans les livres, tu vois, dans les séries. Quand tu vois qu'on nous dit aujourd'hui l'attention des gens diminue, pourtant on passe des heures à regarder des séries sur Netflix. Pourtant, on regarde Harry Potter à la vente, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires sur 7 tomes dans quasiment 70 langues. Comment ils font pour captiver les gens? Ça me fascine. Et ça, je suis hyper geek dessus et je prends des notes sur les scénarios de Pixar et les scénarios de Harry Potter. Et c'est vraiment ça qui m'inspire. Et c'est de ça dont je me sers, en fait, dans le marketing.
Quel type de notes est-ce que tu prends sur un scénario comme ça? Comment est-ce que tu l'analyses? Comment est-ce que tu comprends ce qui fonctionne?
Je m'observe déjà. Par exemple, et tu arrives à la fin d'un épisode. Qu'est-ce qui fait que même si t'es crevé, que théoriquement t'as pas le temps, tu vas cliquer, tu vois, sur Netflix, sur regarder l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme accroche? Et des fois, ça peut être en début d'épisode, en milieu d'épisode. Comment est-ce qu'ils font? Parce qu'en fait, ce qui nous fait agir, ce qui nous fait prendre nos décisions, c'est les émotions, d'accord? Donc, t'as besoin de créer un certain contexte émotionnel pour captiver les gens ou pour faire réfléchir les gens aussi en fonction de la manière dont tu travailles, si tu veux, dans ton domaine, tu as une sorte d'empreinte émotionnelle. Et donc, je repère, en fait, dans les séries, dans les scénarios, et je sais que tu fais ça aussi, de fait, tu décortiques les scénarios dans Friends et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche, Stan, et d'aller chercher, voilà, vraiment comment ils ont fait pour créer du suspense, pour créer de l'anticipation, pour créer de l'humour, pour créer une connexion émotionnelle. Des fois, tu sais que tu es en train de regarder un écran. C'est des pixels que tu regardes, d'accord? Comment est-ce que d'un coup tu te sens triste, ou t'as la larme à l'œil, ou t'as envie de rire, ou t'es captivé, ou qu'est-ce qui a fait que entre deux épisodes, tu penses à ce qui va se passer, à qui a dit quoi, à machin? Ça, c'est vraiment, je prends des notes par rapport à ça, je surligne avec ma Kindle.
C'est drôle parce que je pense que c'est aussi un domaine où on a des approches qui sont un peu différentes. Moi, j'ai beaucoup lu de bouquins là-dessus. Je me suis beaucoup intéressé notamment au côté... entre guillemets théorique, mais au côté formation en scénario, j'ai lu énormément de bouquins là-dessus. Notamment mon frère est à fond là-dessus, donc il a vraiment des trucs pointus qui brocantent. Il fait, tu devrais lire ce bouquin, et il y a des trucs assez costauds là-dessus. Et ça te donne un espèce de framework conceptuel que tu peux utiliser pour analyser ce que tu es en train de voir. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Et notamment, un des premiers exemples que j'avais vu de cette idée-là, c'était Gary Albert, le copywriter américain, qui recommandait de lire une série de bouquins. Je ne sais plus, mais c'était un espèce de c'est un gros polar, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui est détective privé. Dans chaque épisode, il a des aventures. Et lui, il disait, il faut absolument lire cette série de bouquins parce que vous allez voir comment le suspense fonctionne et comment le storytelling fonctionne. Et c'est la première fois, quand lui recommandait cette série de bouquins, que je me suis dit, effectivement, il y a un truc où cette culture populaire qui touche beaucoup de monde et qui nous fait cet effet-là, il y a bien une raison et tu peux comprendre quelque chose et tu peux comprendre quelque chose de fondamental sur la manière dont les gens absorbent l'information, la manière dont les émotions fonctionnent, la manière dont tu peux communiquer de manière efficace. Et c'est un truc que j'ai pas mal pris à cœur. Et puis évidemment, il y a un côté fascinant à comprendre comment, par exemple, Star Wars ou comment un film de Pixar va fonctionner. Et de comprendre les tenants et les aboutissants et pourquoi est-ce que à la fin du deuxième acte de toutes les comédies romantiques ils sont obligés de se disputer et tout est perdu et c'est la fin, tu vois. Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être là, parce que c'est pas un choix, tu vois, c'est pas un cliché qui est là parce que les scénaristes n'ont pas d'idée. C'est un truc qui a besoin d'être là parce que s'il n'était pas là, ça manquerait et le film serait pas bon.
Ah, c'est, je trouve que c'est absolument fascinant. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un, je fais les choses de manière assez lente, en fait. Mais le seul truc que je sais faire vite, c'est lire. Donc, je lis énormément de fiction et je prends beaucoup de notes. Même les phrases, tu vois, des fois. Et aussi, il y a un truc, moi, qui m'inspire beaucoup, comme j'ai des enfants qui ont 6 et 9 ans, c'est la littérature jeunesse. Parce que j'ai remarqué, c'est très intéressant d'observer les enfants, justement, qu'est-ce qui les fascine, tu vois, dans des scénarios, tu vois, quand je vois... un de mes fils qui bug complètement sur un type de livre, tu vois, genre une série de livres ou un livre, il faut lui relire encore et encore, je lui dis, mais pourquoi ? Et donc, je vais voir, tu vois, dans la manière dont... y a une manière, en fait, dont les phrases sont tournées, dont il y a des rimes, tu vois, entre les mots dans les phrases qui font que, sur un jeune cerveau, en tout cas, c'est fascinant, et donc, je me sers de ça. J'ai une mémoire, je garde aussi des fois en mémoire certaines structures de phrases, c'est pas dans des livres pour enfants où je les note et je m'en sers dans mes mails en copywriting, quoi.
C'est marrant, avant de terminer, il y a 3 questions que je pose à tout le monde à la fin du podcast. Et la première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
À mon moi-même de 20 ans ? Oh, je crois que je lui dirais change rien et fais-toi confiance.
Ok. Parce que c'était quelque chose que tu avais besoin d'entendre à l'époque ?
Oui. Et je crois aussi, je suis sur mes 40 là, tu vois qu'en fait, tout ce par quoi tu passes te construit aussi et fait ta vie d'aujourd'hui. Donc, je dirais, change rien. Je crois qu'on revient... Enfin, j'ai l'impression que plus ça va, plus je reviens... ça fait déjà un moment maintenant, mais à qui j'étais entre 15 et 20 ans, tu vois.
Ok. Qu'est-ce qui a fait quand tu as eu ce détour entre les deux ?
Après, il y a les études, la pression que tu peux avoir, tu vois, dans certaines grandes écoles. Il y a l'environnement professionnel, le monde du travail, c'est particulier quand même. Donc, ce n'est pas un monde où, à la base, on met en avant tes points forts. C'est plutôt, on essaie toujours de compenser les faiblesses. Mais c'est un peu la culture, tu sais, française, ça. Donc, tu vas partir dans des... Enfin, tu peux, en tout cas, facilement partir dans des branches professionnelles qui ne sont pas celles à laquelle tu rêvais à la base, quoi.
Ok. Et ça modifie par ton rapport à toi-même et l'idée de est-ce que je peux juste jouer sur ce qui me vient naturellement ou est-ce qu'il faut que je me conforme à quelque chose d'autre parce que c'est la clé du succès.
C'est ça, c'est qu'il y a un moment, voilà, tu vois, quand t'es en gros jeune cadre dynamique où ce qui est valorisé, c'est le fait aussi de rentrer dans certaines cases et pas forcément, et tu mets un peu en sourdine les côtés parfois tu es un peu fantasque ou atypique, ouais, de ta personnalité. Ouais. Et moi, par exemple, du coup, ça m'a amené pendant des années, j'ai cru que j'aimais pas le marketing, que je n'aimais plus le marketing, parce qu'en fait, c'était une approche, tu vois, du marketing où j'étais allée dedans parce, ouais, que j'aimais, mais finalement, professionnellement, tu vois, en entreprise, etc., ça, ça correspondait pas du tout. C'est trop normé, quoi. Ça correspondait pas du tout à ce que je faisais.
Ok, ouais, je vois ce que tu veux
dire. Est-ce que j'aurais aimé... Enfin, à qui j'étais, en fait, est-ce que j'aurais aimé faire. Mm-hmm. Et donc, maintenant, tu vois, j'y reviens en indépendance. C'est un autre kiff, quoi.
Deuxième question. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Internet, c'est une table pour deux. mais sinon, disons qu'il y a un livre qui, moi, m'inspire, m'aide beaucoup, qui n'est pas du tout un livre de marketing, et que je cite d'ailleurs dans mon livre au début, c'est un livre de Marianne Williamson. Donc, faut être... Bon, après, je ne sais pas, de tes auditeurs, ou même pour toi, il faut être un minimum spirituel, parce que Marianne Williamson, c'est un guide spirituel, et qui s'appelle « The Law of Divine Compensation », et c'est comme un essai sur l'argent et le travail. Et c'est une approche, et tu sais, elle a écrit au début de ce livre, j'ai cité dans mon livre, elle a écrit on n'est pas déprimé parce que l'économie est déprimée, et dit l'économie est déprimée parce que nous, on est déprimé. Et j'ai trouvé ça très fort, et tu vois, d'où l'intérêt aussi de se reconnecter, tu vois, à ses valeurs et vraiment remettre l'humain dans son travail, dans le marketing, parce que voilà, c'est une approche dans ce livre, je trouve, du travail et de l'argent et de l'impact qu'on veut créer, tu vois, dans la vie des autres, qui est passionnant et qui permet de remettre aussi les hauts et les bas du parcours entrepreneurial dans une dimension plus vaste.
Dernière question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Oui, tellement. Et je reprendrai justement celle de Marianne Williamson, en fait. Ce n'est pas l'économie qui est déprimée. On n'est pas déprimé parce que l'économie est déprimée, c'est l'économie est déprimée. Oh, j'y arrive plus, je me mélange les pédales. Ce n'est
c'est
pas...
Ça. Ouais, je pense, ouais.
Tu vois ce que je dis? Ouais, je l'avais. Ouais. Ce n'est pas nous qui déprimons parce que l'économie est déprimée, c'est l'économie qui est déprimée parce que nous déprimons. Et que généralement, quand il y a un truc qui ne va pas ou qui coince, etc., si on regarde, tu vois, à l'intérieur, ça impacte vraiment notre vie de tous les jours et le message qu'on fait passer et nos résultats et dans la vie professionnelle aussi.
Pour terminer, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'on retrouve tout ça, le livre, tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut garder contact avec ton travail?
Oui, bien sûr. Merci. Donc, moi, c'est selmapaiva.com. Donc, Selma Paiva, ça s'écrit comme ça, s'entend. S-E-L-M-A-P-A-I-V-A. Mmh.
Il y aura le lien dans la description du podcast et sur le site.
Voilà. Et puis, voilà. Le livre, il est sur Amazon, au format Kindle et papier depuis quelques mois.
Cool. C'était comment de recevoir le livre en papier pour la première fois?
Eh bien, écoute, justement, on m'avait dit... En fait, moi, je suis très livre Kindle parce que je lis tellement. Mm-hmm. Et je l'ai fait en papier parce qu'on me l'a réclamé en papier. Mais pour moi, le vrai truc, ça a été de l'avoir en format Kindle, okay. En fait. Je sais que ça fait bizarre. Je sais qu'on aime bien, ouais, le commander, mon livre, en format papier, etc. Mais pour moi, le gros du travail, ça a été vraiment l'écriture et, tu, ouais, vois, le mettre sur Amazon, le mettre au format Kindle. Et après, c'était presque anecdotique. Je suis contente, si tu veux, qu'il soit là au format papier. Mais, ouais, pour moi, mon bébé, c'était plus le Kindle déjà.
Cool. Merci, Selma.
Merci, Stan.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour terminer, bien sûr, je voudrais vous reparler très rapidement de ma nouvelle formation gratuite qui s'appelle « Comment construire une carrière de freelance stable et rentable ». L'idée ici, c'est que si vous êtes freelance, eh bien, vous êtes très fort dans votre métier. Vous êtes un designer, vous êtes un programmeur, vous êtes un consultant. Vous avez un cœur de métier, vous avez un savoir-faire. Et il y a un côté où on a un peu envie de croire que il suffit d'être bon dans ce qu'on fait et les clients vont venir à nous. Évidemment, si vous avez travaillé dans le métier depuis plus d'une minute, vous savez que ce n'est pas le cas. Et vous savez qu'il y a d'autres compétences autour, des compétences de vente, des compétences de networking, des compétences de gestion de projet, des compétences de communication, qui sont tout aussi essentielles pour construire cette carrière qui va vous permettre de prospérer sur la durée. Et l'idée, c'est que ces compétences, ben, vous ne les avez peut-être pas aujourd'hui. Personne ne vous les a appris. C'est clairement pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Malheureusement, on n'a pas de formation sur le networking, on n'a pas de formation sur la vente à l'école. Et donc, j'ai créé une formation qui rassemble tout ce dont vous avez besoin pour construire une carrière de freelance stable et rentable, en dehors bien sûr de votre savoir-faire. Je vous laisse apprendre votre propre savoir-faire, ça je ne vais pas y toucher, mais toutes les compétences business qui sont autour, et ben c'est là que Marketing Mania va intervenir, va vous apprendre comment construire ce système qui va venir entourer votre compétence et qui va venir construire cette carrière sur la durée. Quelque chose qui soit rentable, avec des projets qui sont intéressants, avec des clients qui vous respectent, avec des bons clients qui sont des bons payeurs, qui payent à temps, qui reconnaissent la valeur de ce que vous proposez. C'est des clients qui cherchent un type de freelance spécifique, ils cherchent une certaine mentalité, ils cherchent une certaine manière de réfléchir, une certaine manière de vous exprimer. Et tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Donc la formation, c'est une formation vidéo de 7 jours qui est totalement gratuite. Vous pouvez la recevoir en vous rendant à l'adresse marketingmania.fr/freelance. C'est marketingmania.fr/freelance. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.